Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Enchanté de vous retrouver pour Culture Média, au menu tous les médias, toutes les formes de culture. Tiens, aujourd'hui par exemple, des gentils et des méchants. Je vais commencer par les gentils. Il y aura Bruno Donnet pour ses télescopages, mais également Marc-Antoine Lebray qui va soigner notre invité culture. Ce sera en toute fin d'émission. Et d'abord, dans quelques instants, le journal des médias et les audiences avec Louise Bernard. Notre infomédia, dans 3 jours, on va célébrer les 20 ans du 11 septembre, date tellement forte qu'il n'est même pas nécessaire d'ajouter 2001 pour que chacun visualise les images de ces deux avions qui percutent les tours du World Trade Center. L'événement a changé la face du monde, mais aussi des médias. C'est ce que raconte le journaliste Julien Belvert, c'est le spécialiste média de Quotidien sur TMC, pour un doc qui analyse ce cataclysme. Il sera avec nous. Nos invités ensuite, Guillaume Charles, le directeur général des programmes d'M6, qui vient nous annoncer les nouveautés de la chaîne. Il y en a pas mal, à commencer par la politique, là où on attend pas forcément M6, vous l'entendrez. Enfin, un humoriste et comédien que toute la presse présente comme un surdoué, de Téléstar jusqu'au très sérieux Le Monde, Roman Frécinet. Il est à l'affiche du premier film de Mouloud Achour au titre prédestiné, film qui sort aujourd'hui. Ça s'appelle Les Méchants. La boucle est bouclée. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour, bonjour.
Au sommaire de votre journal des médias.
L'ouverture d'un procès historique aujourd'hui, historique pour les médias aussi, vous le verrez. Une nouvelle série policière sur France 2, bientôt un prix Goncourt dans l'équipe de Quotidien, oui peut-être, et puis des petites actualités séries.
Mais d'abord, les audiences, qu'ont regardé les Français hier soir? Qu'est-ce qui arrive en tête? Est-ce que c'est le foot ou est-ce que c'est ce documentaire sur France 4 sur la danse contemporaine?
Ah bah je vais vous surprendre, c'est le foot. 6 890 000 téléspectateurs, 30,6% de part d'audience devant France-Finlande. C'était sur TF1, voilà. France 2 ensuite avec Le Professionnel, un très bon score pour le film qui était un hommage à Jean-Paul Belmondo, cette diffusion hier soir, 4 170 000 téléspectateurs. Et ensuite on a France 3, en fait c'est 1-2-3 hier soir, France 3, le téléfilm Les Ombres de Lisieux qui était en rediffusion, 2 390 000 téléspectateurs, 10,7% de part d'audience.
Culture Média.
À la une des médias, à la une du journal des médias, vous l'avez dit, l'ouverture d'un procès historique, celui des attentats du 13 novembre 2015.
Oui, il en est question partout dans les médias, tant le moment est historique. Il l'est aussi médiatiquement, puisque journalistes et dessinateurs seront le lien unique entre le public et ce moment d'histoire. Quelques chiffres. 141 médias couvriront ce procès, 58 venus de l'étranger. Et les rédactions françaises déploient des moyens extraordinaires, bien plus importants que pour d'autres procès, en accréditant plusieurs journalistes par rédaction, qui vont devoir se relayer pendant ces 9 mois. Rien que pour l'ouverture aujourd'hui, certaines rédactions de télévision envoient une dizaine d'équipes pour couvrir l'événement.
Mais aucune image de l'intérieur de la salle ne va filtrer.
Non, le procès va être filmé, mais uniquement pour les archives nationales, comme ce fut le cas pour le procès des attentats de janvier 2015. C'est le 13e procès à être filmé en France depuis 1985, depuis la date où c'est autorisé. Aux dessinateurs donc d'illustrer le procès et aux journalistes qui assisteront de le raconter. Des journalistes pour qui une cellule d'accompagnement psychologique est d'ailleurs prévu. C'est une première. C'est une idée de l'association de la presse judiciaire suite au procès des attentats de janvier 2015, car beaucoup de journalistes ont été marqués par des mois et des mois de récits de souffrance.
Tout autre chose, puisqu'il est question de fiction maintenant, France 2 lance sa nouvelle série policière ce soir.
Oui, Les Invisibles, c'est une série créée par Olivier Norek. Vous savez, c'est cet ancien policier brillamment reconverti en auteur de polar et scénariste. Alors, il a eu l'idée d'une nouvelle brigade, c'est celle du commandant Darius. Il s'occupe uniquement des corps non identifiés et leur mission, c'est de rendre une identité justement à ces morts.
Il n'y a aucun papier d'identité sur la victime, empreinte non fichée et aucun avis de disparition correspondant.
C'est pour nous alors.
Écoutez, je pense que travailler à 4 sur ce type d'affaires, c'est pas vraiment la bonne méthode.
Ah bon?
Vous faites bande à part, vous bossez sur des victimes qui n'intéressent personne, et votre boss, on m'a dit qu'il était quasi incontrôlable. Un gros casse-couille quoi.
Commandant Darius, enchanté.
4 policiers dans cette brigade, Marie-Jo, Ben, Duchesse et Angie, au caractère bien différent, sous le commandement de Darius, donc flic passionné, joué par Guillaume Cramoisin. L'acteur a déjà incarné beaucoup, beaucoup, beaucoup de policiers à la télévision, notamment dans Profilage sur TF1, mais en fait, il ne s'en lasse pas de ses rôles.
Moi, si c'est un rôle de flic qui est bien écrit, et si je peux aller dans des espaces qui me plaisent, je m'en fiche, en fait. C'est vrai qu'un rôle de mendiant ou un rôle de curé, c'est quelque chose qui me plairait aussi, d'aller explorer et faire quelque chose de différent. Maintenant, si tu prends un rôle qui est mal écrit, ça sert à rien non plus. Parce que moi, c'est pas tant le flic qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du flic. il y avait une espèce de truc qui me plaisait dans son silence, dans sa distance avec les événements. Je le trouvais intriguant, énigmatique, un peu autiste et voire mystique.
Guillaume Cramoison qui incarne donc le commandant Darius ce soir à 21h05 sur France 2. Il y aura deux épisodes de cette série, Les Invisibles.
Une journaliste de Quotidien dans la première sélection du prix Goncourt.
Oui, Lilia Hassen qui est chroniqueuse dans l'émission de Yann Barthès. Elle figure dans cette prestigieuse liste des premiers sélectionnés pour son second roman, Soleil amer. Il est sorti le mois dernier chez Gallimard et il traite de la question de l'intégration des populations algériennes dans la société française entre le début des années 60 et la fin des années 80. Elle figure aux côtés de Christine Angot, Sorche Chalandon, David Diop, Philippe Génada, entre autres. 16 noms au total. Mais d'ici là, la remise du prix le 3 novembre, la liste va être serrée deux fois en octobre.
Et dans quelques instants, hasard de l'actualité, on aura un autre journaliste de Quotidien à ce micro, Julien Belvert. Deux actualités séries pour finir. Amazon Prime Video vient de perdre sa Mrs. Smith.
Oui, l'actrice Phoebe Waller-Bridge quitte le projet d'adaptation en série du film Mr. and Mrs. Smith. Vous savez, c'était ce film avec Angelina Jolie et Brad Pitt sorti en 2005. Ils s'étaient rencontrés sur le tournage pour la petite anecdote.
Ah oui.
People. Tout à fait. Un départ cette fois-ci à cause de divergences artistiques d'après les médias américains. Le projet lui continue avec l'acteur qui était prévu, Donald Glover. Et la série est donc en ce moment en cours d'écriture. Elle devrait rentrer en production l'an prochain. Amazon Prime Video a donc encore quelques mois pour trouver une remplaçante.
Et puis plusieurs personnages font leur retour dans la prochaine saison de Grey's Anatomy.
Vous savez la combientième saison c'est ?
Aucune idée.
C'est la 18e saison. C'est plus qu'Urgence. Hein. Ça y est, Grey's Anatomy a largement dépassé. Et cette 18e saison, elle sera diffusée aux États-Unis à partir du 30 septembre. Et les fans vont apprécier le retour d'un personnage historique de la série, Addison Montgomery, près de 10 ans après sa dernière apparition. C'est une bonne nouvelle hein, parce que ça va permettre de redonner un coup de boost à la série. En fait, il ne reste presque aucun personnage culte à part Meredith Grey, qui tire son nom, dont la série pardon, tire son nom. Autre personnage de retour, alors plus confidentiel cette fois, la mère de Meredith Grey. Je ne sais pas comment, parce qu'elle est censée être morte depuis plusieurs saisons, donc sans doute sous forme de rêve. Et puis il y a le retour d'un personnage bien plus récent, Megan Hunt, qui est la sœur du Dr Hunt. Elle devrait jouer là un rôle récurrent.
La seule info-série que je connais hors série, c'est que Angelina Jolie et Brad Pitt font du rosé. Voilà, ça c'était une info. Merci beaucoup, Luce Bernard.
En plus, ils ne font pas de série.
Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter média, sauf le rosé. L'inscription est gratuite sur europe1.fr. À demain pardon, pour un nouveau journal des médias. Dans un instant, notre infomédia revient sur le 11 septembre 2001, 20 ans après. TMC diffuse ce soir un prime qui retrace cette journée funeste et même le lendemain avec des archives et des témoignages exceptionnels vus du côté des médias. C'est Julien Belvert, journaliste média dans l'émission Quotidien, qui sera avec nous pour en parler puisque c'est lui qui signe ce doc. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
L'infomédia prend trois jours d'avance. Samedi, le 11 septembre, cela fera 20 ans que des avions de ligne se sont écrasés sur les tours jumelles du World Trade Center à New York. Les chaînes de télévision et les radios à travers le monde bousculent ce jour-là leur programmation. Et c'est une première et ce n'est pas fini. Quelques minutes plus tard, le Pentagone est frappé lui aussi, puis un autre avion s'écrase en Pennsylvanie. Quatre vols détournés, un total de presque 3000 morts. Ces attentats revendiqués par Al-Qaïda ont changé la face du monde et de l'information. Récit avec Julien Belvert, bonjour.
Salut Philippe.
Vous êtes journaliste à Quotidien et ce soir sur TMC, vous proposez un prime exceptionnel que vous signez. 21h Média, 11 septembre 2001, document qui retrace cette terrible journée à travers les médias du monde entier. Pour commencer, Julien Belvert, vous faisiez quoi à cet instant-là, le 11 septembre 2001? Tout le monde se souvient où il était, vous étiez où?
Oui, tout le monde se souvient où il était. Alors moi j'avais 20 ans, donc ouais. J'étais en cours, j'étais encore étudiant, j'étais en Montpellier. Et très vite, on a su qu'il se passait ça aux États-Unis. Alors à l'époque, évidemment, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas les push qu'on recevait toutes les 2-3 minutes. Donc c'est un professeur qui nous informe. Et il y avait une télévision dans cette école, donc on s'est tous jetés devant la télé. Et ce jour-là, je finissais les cours assez tôt, donc vers 15h à peu près. Donc là, j'ai pris ma voiture, je suis rentré chez moi. Je me suis installé dans le canapé et je n'ai pas décroché de ma télé jusqu'à minuit.
Pareil, peut-être moi c'est 1h du matin, mais pareil, on était tous en état de sidération.
Exactement.
En passant d'une chaîne à l'autre. Vous avez retrouvé les archives de l'époque, ça évidemment beaucoup de gens l'ont fait ou vont le faire, parce que le 11 septembre ce sera samedi, la date anniversaire. Vous avez également interrogé des journalistes qui ont couvert ce 11 septembre, qui étaient à l'antenne. Élise Lucet, David Pujadas était sur LCI, Thomas Legrand qui était chez nos confrères de RTL à l'époque, maintenant
absolument,
il est sur Inter, Laurent Saïm, Michel Moutot. Est-ce qu'ils ont été fascinés difficile à convaincre. Déjà, une toute petite question, il y a un télescopage avec les visages d'il y a 20 ans.
Oui, c'est ça qui est assez rigolo, parce qu'aujourd'hui, ouais. David Pujadas est sur LCI. Il était sur LCI avant d'être sur France 2 à l'époque où il présente l'édition spéciale. Élise Lucet, évidemment, à la tête des émissions d'investigation de France 2. Après, il y a Michel Moutot. Alors, Michel Moutot, on le connaît un petit peu moins.
Moi, je ne le connaissais pas. Voilà. Je l'ai appris grâce à vous.
Mais il a un rôle hyper important, parce que c'est lui qui rédige la première dépêche AFP qui annonce qu'un premier avion percute la première tour. C'est lui qui la rédige. Et puis, évidemment, il va rédiger des dizaines et des dizaines de dépêches pendant plusieurs semaines. Et puis, il y a Tolmin Legrand aussi, qui était à l'époque reporter sur RTL et qui était surtout à l'époque aux États-Unis. Il venait d'arriver aux États-Unis pour prendre ce poste. Il se balade dans la rue, il entend un énorme bruit, il lève la tête et il se rend compte qu'un avion a percuté la tour. Et 6 minutes plus tard, il est en direct sur RTL pour son premier flash.
Là, c'est une première. Les radios ont été les plus rapides, mais chacun, évidemment, a en tête les images de la télévision. La télévision, c'est de l'image, n'apprend rien à personne. À l'époque, le 11 septembre 2001, il n'y a en France que 2 chaînes d'infos continues, LCI et iTélé. Comment se fait-il que les médias aient pris l'antenne aussi vite? C'était inédit.
Oui, c'était inédit. Et puis le paysage médiatique est très différent. Il y a 20 ans, en effet, vous l'avez dit, il n'y a que 2 chaînes d'information. LCI qui existe depuis pas mal de temps, iTélé qui est là depuis seulement 2 ans. Et c'est LCI qui, la première, va prendre l'antenne, puisqu'elle reçoit, comme toutes les rédactions, des images des États-Unis. On a des flux live des chaînes d'information américaines. Elle se rend compte que une des 2 tours est touchée, qu'il y a de la fumée qui sort. Personne ne sait vraiment ce qui s'est passé, si c'est un avion de tourisme, si c'est un gros porteur. Donc LCI prend l'antenne avec 0 information. Il brode pendant plusieurs minutes. Très vite, le deuxième avion arrive. Donc là, ils se rendent compte assez vite que ce n'est pas un accident, mais que c'est un attentat. Et très vite, TF1, ce jour-là, va comprendre que ce qui se passe est absolument énorme. Et donc, ils vont récupérer le flux de LCI avant de mettre en place leur propre édition spéciale. Puisqu'à l'époque, les éditions spéciales de ce type-là, ça n'existe pas et personne ne sait vraiment les faire.
La correspondante à New York d'iTélé, c'est Laurence Haïm. Il n'y a aucune image d'elle à l'époque. Comment se fait-il? Pourquoi on ne les voit pas?
Alors, on aurait adoré les montrer, les retrouver. Ça a été assez facile pour France Télévisions, pour TF1, parce que tout ça est archivé à l'INA. En revanche, pour Canal et pour iTélé, ces images ont disparu. En fait, ces images n'ont pas été stockées par Canal.
Ah, vraiment?
Voilà.
Ah, donc, je me suis dit, peut-être ils ne veulent pas les donner.
Non,
comme Yann Barthès était
parce...
sur Canal+, il est passé sur le groupe
tout.
TF1, peut-être. C'est un
on
petit,
les aurait achetés.
On
les aurait achetés.
D'accord.
On les aurait achetés.
Parce
mais...
que vous avez retrouvé les guignols du lendemain que je ne vais pas dévoiler ici.
Absolument. Guignol, programme un peu particulier, qui lui, pour le coup, était archivé. En revanche, les éditions spéciales de Canal n'existent plus. C'est assez dommage parce que Laurence Haïm a fait une journée quand même assez dingue ce jour-là sur Canal. Mais bon, elle est dans le documentaire et elle nous raconte son 11 septembre.
Son septembre est absolument phénoménal parce que ça commence par
une histoire d'amour.
Presque début d'histoire d'amour qui n'aura pas lieu. On l'a dit, la radio a été le média le plus rapide. Le correspondant français d'RTL à l'époque à New York, c'est Thomas Legrand. Il prend l'antenne avant tout le monde et il s'exprime justement à ce sujet. Là, c'est une interview faite très récemment par vos soins.
Et vous savez, c'est compliqué de garder son calme. J'ai le sentiment d'avoir bafouillé, de pas avoir... pas avoir été à la hauteur de l'événement. Est-ce qu'on peut être à la hauteur de l'événement, de cet événement-là? Je sais pas.
L'événement de temps, chacun le construit dans sa tête. Aux États-Unis, les morning shows, qui sont souvent des émissions très conviviales, très joyeuses, changent également leur conducteur, évidemment. Ce qui surprendra tout le monde, c'est le crash du deuxième avion. Racontez ce qui se passe à ce moment-là.
Bah, le crash du deuxième avion...
Il le voit, je vais résumer ce qu'il m'a rappelé. Il le découvre et il n'y croit pas alors qu'il le découvre.
Exactement. Alors aux États-Unis, en fait, il y a deux situations. Aux États-Unis, ils le vivent vraiment en direct, c'est-à-dire que tous les networks américains sont évidemment branchés avec cette caméra fixe en fait, sur les 2 tours. Au départ, ils croient un accident pour le premier avion. Et quand ils voient le deuxième avion en direct, les images sont assez dingues. En fait, ce n'est pas vraiment les images. Les images, oui, évidemment, mais ce sont les commentaires des journalistes qui sont totalement hallucinés de ce qu'ils découvrent. Ça va durer de longues et de longues minutes. Les commentaires des journalistes à l'époque sont vraiment dingues. Et puis, évidemment, en France, on voit les choses différemment parce qu'on commente tellement le premier avion que parfois, on ne se rend plus compte de ce qui se passe. Et notamment sur TF1, par exemple, le deuxième avion...
On ne le voit pas en direct.
Voilà, on le voit pas en direct.
Ils ont lancé un autre sujet.
Ils ont lancé un autre sujet, un autre magnéto. Donc, ils vont le diffuser en différé. Et ils sont tout aussi, évidemment, choqués par ce qu'ils voient.
Et là où c'est complètement dingue, c'est que vous racontez qu'ils n'osent pas décrire ce qu'ils voient, notamment, par exemple, l'effondrement des tours. Tout le monde voit que la tour s'effondre. Et cette image est tellement sidérante. On le voit.
Ça, c'est PPDA sur TF1.
Oui.
Ça, c'est PPDA
sur TF1. Ils n'osent pas le dire, ils attendent la confirmation.
En fait, ils voient l'effondrement des tours en direct. Donc, il voit les mêmes images que les téléspectateurs.
Ouais.
Ça se passe sous ses yeux. Mais en fait, il ne s'en rend pas compte. C'est tellement dingue qu'il attend d'avoir une dépêche AFP qu'il reprend à l'antenne au conditionnel pour dire que la tour s'est effondrée alors qu'elle s'est vraiment effondrée depuis quelques minutes.
Justement, vous avez retrouvé le correspondant de l'AFP de l'époque. Voici ce qu'il dit. Voici la manière dont il a officialisé l'effondrement de la première tour.
Nous informons le monde entier. C'est une énorme responsabilité. C'est pour ça aussi qu'il faut toujours faire l'équilibre entre la rapidité, mais être sûr de ce qu'on envoie. On ne vérifie pas l'AFP. Donc, si c'est faux, c'est pour nous. Nous, depuis notre bureau qui est à peu près au centre de Manhattan, on n'a pas une vue directe sur les tours. Donc tout ce que je raconte à ce moment-là, je le regarde à la télé, en gros comme le reste du monde.
Responsabilité particulière des journalistes, selon vous, dans un moment comme celui-ci ?
Responsabilité absolument énorme. Mais en même temps, ils ont à peu près les mêmes informations que les téléspectateurs. C'est-à-dire que tout le monde est branché sur les mêmes images, sur les mêmes antennes. Et ça va être très difficile pour eux de savoir, d'avoir des informations de plus, de savoir qui se cache derrière. Bon, très vite, le nom d'Oussama Ben Laden va arriver dans les médias et sera repris par les médias français. Mais c'est très compliqué parce qu'à l'époque, il faut s'y remettre. Hein, 20 ans en arrière, il y a beaucoup moins de moyens d'information qu'aujourd'hui. Les liaisons internationales sont un peu compliquées. Les dépêches AFP, ok, elles racontent ce qui se passe, mais elles ne vont pas forcément en profondeur. C'est très compliqué pour les journalistes de tenir l'antenne. Et malgré cette difficulté, ils vont arriver à le faire pendant des heures et des heures, jusqu'à minuit, le soir même.
Et ils avaient été échaudés par la guerre du Golfe, vous étiez trop jeune pour avoir connu ça, on leur avait reproché aux journalistes de parler sans savoir. Cette fois-ci, ils ont pris beaucoup de précautions, ils ont eu raison. Julien Belvert avec nous, Culture Média continue.
Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie de Julien Belvert, journaliste média, dans l'émission Quotidien, il présente, c'est un one-shot comme on dit, 21h Média le 11 septembre 2001, documentaire autour des médias entre le 11 et le 12 septembre 2001, comment ils ont pris l'événement, comment ils l'ont transmis, comment ils l'ont analysé, quand ils l'ont analysé. Et c'est ce soir sur TMC, on voit les avions qui survolent les États-Unis qui doivent atterrir au plus vite et les chaînes américaines comme CNN se mettent carrément à diffuser un compteur d'avions.
Oui, ça c'est Michel Moutot qui nous raconte ça. En fait, ce jour-là, évidemment, tous les avions sont appelés à se poser sur tout le territoire des États-Unis. Ça paraît, enfin, c'est complètement dingue. Et donc, CNN, en fait, tous les Américains ont peur parce que personne ne sait si un autre avion va percuter la Maison-Blanche, une autre tour. Et donc, tous les avions sont appelés à se poser. Et donc, CNN met en place ce jour-là le compteur d'avions dans le ciel jusqu'au moment où il n'y en a plus, jusqu'au moment où la menace pourrait disparaître.
Et ce que j'ai découvert grâce à votre documentaire, et pourtant on la connaît ici, Laurence Haïm a pris le dernier avion qui s'est posé.
Oui, c'est ça qui est assez dingue, c'est que Laurence Haïm, le matin du 11 septembre 2001, elle est dans un avion, elle s'apprête à atterrir à Newark, un aéroport près de New York, et donc au moment d'atterrir, l'avion remet les gaz parce qu'il ne peut plus atterrir sur cet aéroport, et quelques minutes avant, elle voit le premier avion qui percute la première tour au travers de l'hublot. Et ça nous le raconte de manière assez précise ce soir.
Alors, à ne pas revenir sur le procès qui a été fait à tort ou à raison à David Pujadas. À l'époque, ça fait 2 ou 3 semaines qu'il présente le 20h.
Il vient d'arriver au 20h de France 2.
Ouais. De France 2, alors qu'il était auparavant sur LCI. Il est en train de voir les images. Il se trouve que ce jour-là, il y a une équipe de Plus Clair, l'émission média de Canal+, qui le suit, raconter ce qu'on voit. On le voit dans les bureaux.
On le voit en fait découvrir la première image de la première tour. Et David Pujadas a cette réaction. Il dit waouh, génial, en voyant ces images-là. Et évidemment, on lui a beaucoup reproché ces deux mots. Bon, il s'est longuement expliqué auparavant. Il revient aussi là-dessus ce soir dans l'émission.
Oui, et il s'en explique très, très élégamment dans votre émission. Et alors, vous dites, enfin plutôt les journalistes comprennent au moment de l'effondrement que plus rien ne sera jamais comme avant. Et ils ont également conscience de vivre un moment d'histoire et ce qui fait naître en eux une certaine jubilation. Écoutez.
Quand vous êtes journaliste, vous êtes partagé entre, évidemment, l'effroi de voir ce que vous voyez, mais aussi le fait, une espèce de jubilation d'être là. Et moi, je n'ai aucune honte à dire ça, je l'assume complètement. Ce n'est pas une histoire que vous voulez rater.
Bien sûr, il y a une excitation journalistique, elle est même culpabilisante. C'est moi qui j'y suis, tous les autres sont à Washington. Moi, j'y suis, je suis au cœur et on ne doit pas être nombreux.
J'aurais vraiment pas aimé être en vacances ce jour-là. Parce que si vous voulez faire ce métier, c'est pour vivre ces moments-là.
Je pense que pour ceux qui ne sont pas journalistes, ça peut paraître indécent.
Thomas Legrand et Michel Moutot de l'AFP, vous pensez que c'est indécent, Julien Belvert ?
Non, pas du tout. Merci à eux d'ailleurs de reconnaître ça. En fait, ils nous expliquent qu'ils ont conscience que l'histoire, avec un grand H, s'écrit avec eux. Et le reconnaître, c'est pas non plus très grave. À l'époque, voilà, on en a beaucoup voulu à David Pujadas de cette réaction. Il faut se remettre dans le contexte. Il arrivait aux 20h de France 2. C'était sa première grande édition. C'était son premier breaking news. C'était normal qu'il ressente une forme d'excitation. Bon, il y avait une caméra qui l'a filmé, mais qui n'était pas excité, entre guillemets, ce jour-là. Je pense que si on mettait une caméra dans toutes les rédactions du monde, l'excitation était la même partout.
On a parlé des morts. Je vais citer le chiffre parce que je ne l'ai pas cité. 2977. Et concrètement, là aussi, c'est un paradoxe. Contrairement à d'autres catastrophes qu'on pourrait citer, on n'en voit quasiment aucun. Il n'y a quasiment aucun mort.
Oui, c'est pour le chapitre que je trouve le plus intéressant du doc qui est diffusé ce soir et moi qui m'a le plus surpris. Il s'appelle « Où sont les morts ?» parce qu'en effet, on ne voit aucun mort à la télévision américaine. On ne voit aucun mort, on ne voit aucun blessé. En fait, c'est un choix éditorial qui est fait par les médias américains. Ça, c'est Laurent Saïm qui va nous l'expliquer très précisément ce matin, ce soir, pardon. Et il y a Michel Moutot aussi qui va nous expliquer pourquoi les morts, on ne les voit pas au pied des tours.
Dites-le, expliquez-le.
Bah, je ne veux pas l'expliquer parce que je trouve que Michel Moutot l'explique super bien. Mais il va nous expliquer pourquoi on ne voit pas des brancards, pourquoi on ne voit pas des pompiers qui sortent des corps des décombres. En revanche, le choix en France a été différent. C'est-à-dire que France 2 et France 3 ont diffusé des images de ces personnes qui sautent des tours pour échapper aux explosions, pour échapper aux incendies.
Parce que ces images, ces petits points noirs dont on peut découvrir en les agrandissant que sont des silhouettes humaines, ces images-là n'ont jamais été montrées aux
États-Unis.
N'ont
jamais été montrées aux États-Unis, non. En tout cas, pas dans les premiers jours.
Le 12 septembre, évidemment, les journaux du monde entier font la une sur l'attentat. C'est le jour d'après. Vous présentez à des journalistes les unes, évidemment, du Monde, du Figaro, du Parisien, de Libération. Quelle une vous a marqué vous-même, Julien Belvert?
Ben moi, je fais le choix, je crois que c'est Thomas Legrand qui a choisi cette une, celle de Libération, qui est hyper sobre, en fait, pas de titre, seulement la date, 11 septembre 2001. En plus, c'est une couverture, comme Libération aime les faire, qui s'étale sur la quatrième de couve et la première. Pour moi, c'est celle que je retiens.
Il y a des images inédites, ou quasiment inédites, en tout cas, que je ne connaissais pas, dans votre doc, Julien Belvert. Il y a quelques années, c'est un journaliste américain, il s'appelait Mark Laganga, il travaillait pour CBS à l'époque, il a diffusé un rush exclusif et restauré du 11 septembre. On le voit notamment aller au plus près des deux tours. Déjà, comment se fait-il que ça n'ait pas été diffusé plus tôt et comment vous l'avez récupéré, cette image?
Ces images-là ont été diffusées aux États-Unis en partie, mais pas les 26 minutes. Bon, évidemment, on ne diffuse pas les 26 minutes ce soir, mais ces images-là ont été diffusées bien après le 11 septembre. Ce sont des images qu'on a découvertes plusieurs mois après, le temps qu'elles soient retrouvées, qu'elles soient restaurées, parce qu'elles avaient été un petit peu aussi abîmées. Et c'est des images qui sont totalement hallucinantes, puisque ce sont des images qui sont tournées au pied des tours, alors que pendant des heures et des heures sur les chaînes d'information, on ne voyait que des images en plan large de ces tours. On ne savait pas ce qui se passait réellement au pied des tours. Et donc, il va assister à l'effondrement des tours. Et les images sont absolument dingues.
Mais c'est même complètement lunaire. On dirait presque du cinéma expérimental. On voit ces tours qui s'effondrent. On voit une couche de poussière totalement dingue. Il avance de plus en plus vers l'endroit de l'impact.
Il
a une seule question.
Mourir.
Et il dit, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe?
Et il avance de témoin en témoin, de pompier en secouriste, en disant, qu'est-ce qui se
Exactement.
Passe? On se dit, ce type est complètement dingue.
Et à un moment, il est totalement recouvert par les cendres, totalement recouvert par les décombres. Lui-même ne sait pas s'il va s'en sortir. Et là, il y a une espèce de séquence qui va durer 3-4 minutes.
Ouais.
Une séquence de noir où on n'entend que les bruits. Les bruits des pompiers, sa respiration, les gens étouffés par la poussière. Donc cette séquence, on la diffuse pas en intégralité parce qu'elle est un peu longue, mais on diffuse bien 2 minutes ce soir.
Julien Belvert, vous entamez votre 5e saison à Quotidien. Vous êtes en quotidien, justement, dans Quotidien, si j'ose dire.
Oui.
Ce document diffusé ce soir, c'est votre premier prime. Il y en aura d'autres en projet. Vous attendez les chiffres d'audience de demain pour savoir ça.
Qu'il y en aura d'autres, évidemment. L'idée, c'est d'en faire 2-3 par
an. En gros, il faut dépasser les 600 000 téléspectateurs.
Ouais, moi, c'est mon objectif pour ce soir. On verra. Bon, le temps est très ensoleillé, donc peut-être que les gens préféreront aller en terrasse, mais on espère qu'il va faire de gros orages et que tout le monde va rentrer à la maison. Mais oui, idéalement, on aimerait bien faire plus de 600 000 téléspectateurs, et si c'est le cas, il y aura d'autres numéros.
Comment se portent les audiences de Quotidien? Je veux dire pourquoi je vous pose la question, parce que Yann Barthès s'est fait une religion de jamais en parler, mais vous tweetez régulièrement sur le sujet. Comment sont les audiences de Quotidien?
Moi, je suis journaliste média, donc évidemment, les audiences, je les regarde. La rentrée se passe plutôt pas mal. Vous l'avez vu, il fait très beau dehors, donc il y a un peu moins de monde devant la télévision depuis la rentrée, mais Quotidien reste leader.
Non, pas d'audience, c'est les 3 talk shows qui se tirent là. Je vais pas être.
Quotidien leader, donc voilà. C'est le plus important.
Devant
C'est à vous,
et devant
France
C'est à vous.
Et Touche pas mon poste.
Et on va citer également 28 minutes parce que c'est aussi un
sujet qui marche très bien d'ailleurs.
Merci beaucoup, Julien Belvert. Je
Merci
rappelle, TMC ce soir, 21h média, le 11 septembre 2001. C'est à 21h15 en prime. Merci d'avoir été avec nous en direct, Julien Belvert.
Merci.
Dans un instant, on va parler de la nouvelle grille de rentrée de la chaîne M6 avec son directeur général des programmes, Guillaume Charles. Et là aussi, ça marche très bien. 9h.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Guillaume Charles.
Bonjour.
Vous êtes directeur général des programmes d'M6 et votre actualité, comme beaucoup d'écoliers, de lycéens, d'étudiants, c'est la rentrée.
Comme vous.
Vous êtes venu. Nous, on a démarré il y a 3 semaines déjà. Ouais. La saison dernière a été une bonne saison pour la télévision. Merci le confinement. Et pour M6, quel bilan vous tirez de cette saison qui vient de s'écouler ?
C'est une très bonne saison qui s'est terminée la saison dernière, puisque c'est tout simplement la meilleure saison depuis 4 ans pour la chaîne M6, que ce soit sur l'ensemble de la population ou sur la cible des femmes de moins de 50 ans. Donc on est vraiment très heureux et ça a été surtout une réussite sur tous les genres de programmes, puisque les divertissements, les talk-shows de matinée avec Julien Courbet, voilà, tout a très bien fonctionné. On a pris des risques et ils ont été payants.
Il y a le quantitatif et également le qualitatif. J'ai vu en préparant cet entretien que vous êtes également très bien classé dans le classement, pardon, de ce pléonasme, de TV Mag sur les personnalités préférées des Français, des animateurs préférés des Français.
Oui, je pense que c'est une vraie force, une vraie spécificité de la chaîne qu'on développe depuis des années. Mais Stéphane Plaza est l'animateur préféré des Français. Ouais. Karine Lemarchand.
Auparavant, c'était Jean-Pierre Pernaut, c'était Nagui, c'était Michel Simès. Stéphane Plaza, c'est la première fois que je crois qu'M6 place quelqu'un en première place.
Non, il a déjà été premier. Mais par contre, on a aussi Karine Lemarchand, qui est l'animatrice préférée des Français. Et puis, on a d'autres visages, Cyril Lignac, Philippe Etchebest, Julien Courbet, qui sont très bien classés dans ce top. Je crois que c'est vraiment le reflet de cette relation très particulière que M6 a avec les Français, avec ses téléspectateurs. C'est une vraie relation de proximité.
Alors maintenant, on va parler de la grille de rentrée. Et la question, c'est comment avez-vous travaillé cette grille de rentrée? Quelle est la philosophie que vous aviez pour préparer? Qu'est-ce que vous avez dans le viseur? Je veux dire, le sens de ma question, on peut viser la continuité, on ne change pas une grille qui fonctionne. Ou alors, on peut se dire qu'en mai, avril, il y aura la présidentielle, donc viser ça. Ou alors, il y aura la Coupe du monde de foot au Qatar, qui ne sera pas sur M6. Donc, vous serez là en contre-programmation. Comment vous avez travaillé?
Alors d'abord, ça s'est inscrit dans un mouvement plus global de tout le groupe. On a annoncé toutes nos nouveautés et c'est vrai que c'est tout simplement la rentrée la plus riche pour les chaînes du groupe M6. Pourquoi c'est la plus riche? Parce qu'on a d'abord beaucoup de chaînes qui permettent d'adresser beaucoup de publics et chacun d'entre nous, on a eu beaucoup de créativité et de nouveautés qui ont été annoncées. Mes camarades de W9, par exemple, ont lancé Ultraviolet. Puis on a aussi des gens qui bougent, qui vont d'une chaîne à l'autre. Par exemple, Marie Portolano les rejoindra. Stéphane Plaza ira sur Gullier. Donc déjà, il y a une vraie logique de groupe dans tout ce qu'on a pu lancer. Après, pour M6 plus spécifiquement, d'abord, c'est une année électorale. Donc, on va mobiliser, on en parlera sûrement, mais Karine Lemarchand, qui va nous faire découvrir 5 personnalités politiques, publiques, féminines, qu'on connaît très bien parce qu'on les voit tous les jours à la télévision, j'ai envie de dire. Mais là, vous les verrez comme jamais, puisqu'elles se sont livrées sur leur vie de femme, leur vie de femme au pouvoir. Donc ça, c'est absolument passionnant.
C'est la fameuse série de Karine Lemarchand qui s'appelait Ambition Intime.
Exactement.
Qui avait, dit-on même, un peu changé la face de l'élection présidentielle. Ça avait pesé. Des études ont montré que ça avait pesé sur le vote de certains et de certaines. Alors, cette fois-ci, il y a un angle particulier, vous l'avez dit, rien que des femmes. Il y aura 5 portraits intimes de femmes. Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, Marine Le Pen, Rachida Dati, Marlène Schiappa. On va entendre un extrait. Karine Lemarchand qui est avec Valérie Pécresse, je crois.
Le propos de l'émission, c'est de montrer leur réalité et de montrer leur parcours aussi et la construction de leur ambition.
Et ensuite, il me dit, mais vous savez qu'il n'y a pas de femmes normales en politique. Il n'y a que des hystériques ou des filles mères.
Voilà, ça commence bien. Il y a 20 ans, on aurait dit la politique, ça manque de femmes. En 2021, la question qui se pose, c'est pourquoi seulement des femmes? C'est pas intéressant, les hommes, en politique?
C'est intéressant. Je dirais que, justement, en 2017, il y avait beaucoup de candidats hommes. Donc, on a découvert beaucoup de portraits masculins, assez peu de portraits féminins. Là, on ne peut pas se dire que la place des femmes en politique est en train, en tout cas, d'émerger. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est les femmes au pouvoir. Elles sont ministres, elles sont maires, elles sont députées, elles sont chefs de parti. Donc, elles ont tout aussi une relation au pouvoir, au travail, finalement, un peu comme nous tous, qui est très intéressante à regarder.
Ou alors, il n'y aura que cette série-là, que cette salve-là, ou est-ce que Karine Lemarchand prépare une deuxième série d'entretiens avec cette fois que des hommes, ou alors une série d'entretiens mixte? Qu'est-ce qui est prévu?
On va voir, parce qu'en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une élection un peu particulière dans la mesure où les timings sont très serrés. On ne connaît pas les candidats, parce que soit il y a peut-être des primaires qui vont arriver. Exactement, donc je dirais qu'on s'adaptera aussi à l'actualité, à la rapidité à laquelle vont se cristalliser les positions de tout le monde. Après, on mobilisera Capital, Zone Interdite, tous nos JT, évidemment, pour couvrir de manière très forte cette campagne et surtout les préoccupations des Français. C'est ça qui va nous intéresser.
Juste un mot pour être clair auprès de nos auditeurs. C'est un son qu'on a obtenu de la chaîne. En revanche, ça ne veut pas dire que le montage final soit terminé. Est-ce que vous connaissez la diffusion? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez diffuser là, maintenant, prochainement, ou est-ce qu'au contraire, vous allez attendre mars et avril que la campagne soit effectivement lancée pour diffuser?
Ce sera avant le démarrage de la campagne.
D'accord. Bien avant, ou je sais que...
On n'est toujours pas très dissert sur les programmations, mais ce sera avant la campagne, parce que comme vous l'avez quand même vu dans les personnalités qui seront présentées, toutes ne seront pas du tout candidates à la présidentielle. Ça n'est pas l'angle unique, il se trouve qu'il y en a qui le seront.
Vous parlez de la place des femmes, je voudrais qu'on dise un mot de la fiction. Il y a beaucoup de fictions qu'M6 va lancer, il y en a une qui a retenu notre attention, c'est une fiction sociétale, ça s'appelle À la folie. Pourquoi j'en parle et pourquoi ça fait lien avec ce qui vient d'être dit? Ça traite de l'emprise psychologique, c'est réalisé par André Bescon qui avait réalisé Les Chatouilles. Ce sera avec Marie Gillin, Alexis Michalik. C'est la première fiction que vous mettez vous-même en avant. Pourquoi celle-ci? Pourquoi le focus sur À la folie?
D'abord parce qu'on est ravis d'avoir eu ce projet qui est arrivé entre nos mains, parce qu'on a vraiment voulu travailler avec Andréa Bescon, en effet, avec aussi Marie Gillin, avec qui on avait déjà collaboré, et Michalik. Et parce qu'aussi, c'est un sujet, on le sait, dont on parle, mais assez peu, et qui parfois peut provoquer des drames. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette fiction. Et c'est aussi, on le pense, la fiction, un très bon moyen de parler de sujets sociétaux difficiles en éveillant les consciences. On peut le faire par le documentaire, c'est une écriture. La fiction aujourd'hui est aussi un très bon moyen de montrer des choses qui parfois sont difficiles à voir.
On va entendre un extrait. Oui. C'est court, c'est fort, ce n'est pas de l'humour, c'est humiliant. Extrait.
Oh putain, tu vas encore faire la gueule là ?
Je fais pas la gueule.
Tu vas chialer ?
Pardon.
On peut rien te dire, c'est dingue hein. Je te dis que je t'aime, même si t'es coincé du cul, et toi, tu m'envoies chier.
Pardon.
Voilà, on connaît l'issue. Elle finira par le poignarder. C'est pas moi qui le révèle, c'est vous qui le dites. C'est avec Marie Gillin, Alexis Michalik, réalisé par André Bescon, s'appelle À la folie. C'est un unitaire, ça passera quand?
Ça passera dans la saison.
Ça passera dans la saison. Vous restez avec nous parce qu'on n'a pas encore parlé de ce qui fait le sel, le cœur d'M6, quoique vous avez beaucoup de cœur. Vous êtes comme les poulpes, comme les pieuvres. Ouais. C'est le divertissement. Eh bien, vous restez avec nous, Guillaume Charles. On parle de la rentrée d'M6 dans Culture Média. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Guillaume Charles, il est le... Je ne retrouve plus votre titre exact sur M6. Vous êtes le directeur général des programmes d'M6. On parle de votre rentrée. Il y a des nouveautés. Alors, déjà, c'est une nouveauté. L'émission, je ne la connais pas, mais même le mot, je ne le connaissais pas. Rewild, R-E-W-I-L-D. C'est quoi le rewilding et qu'est-ce que cette émission?
Alors d'abord, c'est un grand documentaire qui va s'inscrire dans, pour la troisième édition, la semaine green qu'on fait au niveau du groupe, où toutes les antennes du groupe M6, la radio, la télévision, se mobilisent pendant une semaine pour soit présenter des émissions, des documentaires sur les questions écologiques et climatiques. Et donc, ce sera un peu le point d'orgue pour M6 de cette semaine-là, comme on l'avait fait l'année dernière avec Legacy de Yann Arthus-Bertrand, qui avait très bien marché. Oui. Donc là, c'est un documentaire Rewild. Et le rewilding, c'est quoi ? C'est un peu ce qu'on a vécu au moment du confinement, où vous avez observé que lorsque l'activité humaine s'arrête, on a les animaux qui réapparaissent, on a les plantes qui repoussent, etc.
Mais ouais, il y avait et des biches et des sangliers sur la Côte d'Azur.
Exactement.
Et il y avait des poissons absolument magnifiques dans la lagune de Venise.
Exactement. Et donc, on a parcouru le monde entier, on est allé en Patagonie, on est allé un peu partout dans le monde entier, pour découvrir des hommes et des femmes qui appliquent ce... réensauvagement, le mot n'est pas très joli en français, mais en tout cas c'est ce que ça veut dire, de la nature, où on va laisser vraiment la nature reprendre ses droits, réinsérer des animaux dans leur environnement naturel. Donc c'est ces histoires-là qu'on va suivre dans un très très beau documentaire.
Autre nouveauté, À la recherche de la jeunesse éternelle, avec un couple de présentateurs totalement inattendus.
Oui, alors c'est Albert de Montesquieu, donc, qui est pris Albert Londres.
Grand journaliste.
Grand journaliste, qui va faire un duo avec Valérie Bonneton, qu'on ne présente pas.
La comédienne.
Exactement. Donc ce projet, il est génial. C'est un grand documentaire, encore une fois, où nos deux acolytes vont parcourir le monde entier, en Asie, en Amérique du Sud.
En Crète.
En Suisse, en Crète.
Je ne l'ai pas vu, mais je dis en Crète, parce qu'on dit que le régime crétois est celui qui vous fait vivre le plus longtemps.
Bah, typiquement, voilà, c'est ça qu'ils vont faire. C'est, ils vont aller chercher dans le monde entier les recettes de grand-mère, de grand-père ou de grands scientifiques pour ne pas vieillir. Ce qui est très amusant, ils se sont prêtés au jeu, et Valérie Bonneton, c'est un projet qui l'a passionné, qu'elle a fait vraiment par envie d'essayer, c'est qu'ils vont faire un check-up complet avant le tournage. On va mesurer leur constante, tous les taux, etc.
Et donc, déterminer leur âge biologique.
Exactement. Et ensuite, ils vont faire ce parcours dans le monde entier. On reviendra et on regardera si ça a marché ou pas et si ça a amélioré les constantes. Ça va être...
Vous parlez au futur. Vous avez déjà tourné ou vous allez tourner ?
Le tournage est en cours.
Le tournage est en cours, donc on ne connaît pas le résultat, donc vous ne connaissez pas encore le résultat.
Je ne connais pas le résultat, je suis très intéressé par le résultat, je pense que tout le monde le sera.
C'est une idée de Nicolas Taverneau ?
Non.
Je dis ça parce que c'est le PDG d'M6, je le précise, il est né en 1950, donc il a 71 ans, et il a la ligne et la vivacité d'esprit de quelqu'un de 40 ans. Donc je dis, c'est peut-être une idée du patron.
Bah, je ne sais pas ce qu'il fait, mais en tout cas, tous les lundis matin, je peux vous dire qu'il est en pleine forme. Pour nous faire décider ce qu'on met dans les grilles.
Ouais. Et est-ce qu'il s'intéresse à ce que vous mettez dans le distributeur ?
Distributeur.
Vous me voyez venir ? Snackmaster, racontez le concept.
Oui, alors ça...
C'est extraordinaire. Je ne pensais même pas qu'on pouvait faire une émission de télé avec ça et tenir deux heures avec ça.
Alors ça, c'est vraiment c'est un petit bijou. C'est un programme, je dois le dire, qui a été lancé aussi dans d'autres pays et qui marche extrêmement bien. Et le principe est très simple, c'est qu'on va mettre au défi deux chefs de reproduire
des chefs cuisiniers,
étoilés, de reproduire à l'identique des grands produits de consommation qu'on peut trouver exactement dans les distributeurs, dans les garde-manger, peut-être dans certains restaurants de restauration rapide.
Sur l'image dossier de presse, on voit un hamburger, on ne va pas citer la marque, et un cône glacé. Voilà.
Oui. Alors, on n'a pas cité de marque, parce qu'on va dire le casting est en cours, mais l'idée, c'est très simple, c'est que là, il ne s'agit pas de sublimer ou de réinterpréter, mais de reproduire à l'identique. Je vais vous raconter une anecdote. Dans le programme anglais, par exemple, il y a un moment, ils reproduisent des chips et ils sont tellement motivés, les chefs, parce que les chefs sont des compétiteurs. Hein, je pense qu'on l'a bien vu sur M6, qu'il y en a un qui va fabriquer une machine à souffler spécifique pour reproduire exactement la forme de cette chips que l'on connaît tous.
Donc, mais est-ce qu'il faut que ça ait le goût, pardon de dire ça comme on cite par Mac, je me fais avec personne, est-ce qu'il faut que ça ait le goût des chips dégueulasses et insipides ou est-ce qu'il faut que ça ait la forme de la chips mais avec un goût sublime fait par un chef avec de très bons ingrédients?
Il faut que ça ait le goût. Moi, je ne commenterai pas le goût. En tout cas, il faut que ça ait le goût exact du produit en question. Produit qui est en général très populaire, mais que nous appellerons à consommer avec modération, bien sûr.
Comment ça va se passer avec les annonceurs? Je vais vous dire les choses. Si vous amusez à refaire un Bounty ou un Rocher Suchard, vous pouvez les avoir comme annonceurs.
Alors, ça, c'est encadré. Donc, de toute façon, c'est un aspect documentaire parce que on découvrira aussi comment, en vrai, ces produits sont fabriqués. Et on parlera de tout, j'ai envie de dire, les produits du marché. Donc, de toute façon, c'est encadré, ça n'est absolument pas...
Non, je veux dire par là qu'il ne faut pas que vous fâchiez ni avec le CSA pour faire de la publicité clandestine, ni avec l'annonceur et que vous perdiez un contrat parce que vous l'avez fait refaire et que vous l'avez raté et que quelqu'un a dit que ce n'était pas bon.
Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on aura ce type de sujet.
C'est du placement de produits ?
Non.
Autre nouveauté, mission rénovation, ma maison est en chantier, et encore, tout changer ou déménager, tout se ressemble. Au bout d'un moment, on finit par toutes les confondre.
Alors non, d'abord, la rénovation, on est vraiment sur les travaux.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a un phénomène très fort, on l'a vu.
Non, c'est la même chose, parce que l'émission tout changer ou déménager, si j'ai bien compris, on doit choisir entre faire des travaux ou déménager.
Oui.
Puis après,
ça,
quand on déménage...
Ça, c'est une question qu'on se pose.
Voilà, et après, quand on déménage, il y a recherche appartement ou maison. En fait, toutes les émissions d'M6 de votre grille se déclinent l'une dans l'autre, si j'ose dire.
Non, mais l'immobilier est un sujet qui passionne tout le monde. Et après, faire des variations autour de ce sujet, je pense que, en fait, dans un cas, en effet, on recherche un appartement. Dans un autre cas, on se pose la question que beaucoup de gens se posent, c'est est-ce que j'agrandis ma maison ou est-ce que je déménage tout simplement pour l'arrivée d'un enfant. Et la rénovation, je voudrais en parler, c'est pas du tout la même chose. Là, c'est on fait ses travaux soi-même. C'est quelque chose qu'on a observé pendant le confinement. Pour des raisons budgétaires, pour des raisons de temps, beaucoup de gens ont décidé de faire leurs travaux eux-mêmes. Et parfois, ça peut mal tourner et c'est là qu'on interviendra.
La grosse actu de la saison, je l'ai dit, c'est la Coupe du Monde de foot au Qatar. Une fois n'est pas coutume, elle n'aura pas lieu en été, mais du 21 novembre au 18 décembre 2022, dans des stades climatisés, on en a assez parlé. Vous étiez partagé les matchs éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est TF1 qui a les droits du gratuit. Pour quelle raison ? Pourquoi il n'y a pas eu d'accord entre vous ? Pourquoi vous n'avez pas essayé d'enchérir sur la Coupe du Monde alors que vous étiez présent pendant l'Euro ?
Moi, je ne commande pas les appels d'offres passés, mais en tout cas, ce qui s'est passé, je dirais que c'est pour des raisons économiques et de partage. Il y a eu des accords, en effet, pour partager certains matchs ou certaines compétitions, comme les qualifications, on est co-diffuseur. Et il y en a d'autres où ça n'a pas eu lieu.
Mais ce n'était pas un choix éditorial de laisser tomber la Coupe du Monde pour cette fois-ci ?
Ah, on a... Voilà, je dirais qu'il faut être deux pour partager, mais en l'occurrence, sur la Coupe du Monde, ça n'est pas le cas.
M6 s'était fait connaître pour son art de la contre-programmation. Vous allez faire quoi pendant la Coupe du Monde ?
Ah bah pendant la Coupe du Monde, on peut imaginer tout le monde, comme on l'a dit, le foot marche très bien. On est très content des audiences du football sur M6. Et d'ailleurs, ça a montré que le football pouvait très bien fonctionner.
Oui,
sur
mais
M6.
Si vous n'avez plus les droits d'un mot.
Oui, oui. On contre-programmera des séries pour tout le public qui n'aime pas le football. En France, c'est assez, ça reste une majorité.
Ils sont nombreux, mais évidemment. Quand un match fait 10 millions de personnes, ça veut dire qu'il y en a 56 millions qui ne l'ont pas regardé.
Ça m'a toujours fasciné.
Merci beaucoup, Guillaume Charles, et pour cette fascination. Vous êtes directeur général des programmes d'M6. Merci d'avoir été avec nous en direct. Culture Média continue. Le rappel des titres de 10h et puis Bruno Donnet pour ses télescopages. Notre invité, c'est l'humoriste et comédien Roman Frécinet pour le film Les Méchants qui sort aujourd'hui en salle. Et puis dans Les Indispensables, une sélection des sorties cinéma du jour. Et puis Stéphanie Loire qui revient sur le parcours de Grand Corps Malade. À tout de suite.